Alors, 1 Jean, chapitre 1, versets 6 à 7, il est écrit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc avec Jésus-Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » On va aller dans Acte 2, 42. On n'a qu'une partie de ce verset. Je parlais ce matin de la communion fraternelle. Acte 2, 42. Et il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On va parler de communion fraternelle, je crois que c'est quelque chose qui est important dans l'Église, et si le Seigneur a créé l'Église, c'est pas pour rien, c'est pas pour qu'on vienne s'asseoir une fois par semaine sur les bancs et puis repartir, c'est parce qu'il avait un projet aussi, et vous savez, l'Église, ça ressemble des fois au RER. Je sais pas si vous avez l'occasion d'être dans le RER, vous asseyez, vous regardez autour de vous, vous vous intéressez à personne, ou alors vous voyez que le gros bouton qu'il a l'autre en face peut-être, mais personne ne se parle. Et des fois, on vient à l'Église de la même manière, et on ne se parle pas, on écoute et puis on repart. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la personne qui est à côté de vous? Alors, c'est dommage, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Hein. Je crois qu'il y a tout le monde qui dort encore à ce temps-ci. Hein. Beaucoup qui ont loupé l'heure. Mais est-ce qu'on connaît notre voisin? Alors, pour les couples, hein, c'est facile. Mais je suis sûr que vous ne pourriez peut-être pas toujours donner le nom. Et c'est bien dommage qu'au bout d'un an, on ne puisse pas se connaître les uns les autres. Parce qu'il manque justement cette communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est un gros effort. On l'a vu tout à l'heure, il faut persévérer, on en reparlera. Mais il faut découvrir l'autre. Alors ça, ce n'est pas toujours simple de découvrir l'autre. Non seulement il faut le découvrir, mais il va falloir apprendre aussi à l'aimer. Et là, c'est encore plus difficile. Mais j'aimerais voir un peu ce matin tout ce mot, en fait, communion fraternelle, qui est koinonia en grec, et qu'on retrouvera dans les versets que je vais projeter au fur et à mesure. Bon, on peut s'intéresser à l'origine peut-être de cette communion fraternelle. Pourquoi Dieu veut cette communion fraternelle? Le mot koinonia, donc communion, signifie communion fraternelle, contribution, peut-être même don, voire communication. Donc, c'est quelque chose qui a un large panel. Et donc c'est une communion que le Seigneur veut entre les frères et les sœurs qui sont sauvés. On fait partie d'une même famille et c'est tout à fait normal qu'il y ait une communion les uns avec les autres comme dans une famille tout à fait classique. Alors cette communion fraternelle, elle peut s'exprimer de mille et une manières, j'ai envie de dire. D'abord, il y a l'aspect relationnel. Si je veux être en communion avec l'autre, il faut évidemment que j'ai une relation avec cette personne. Ça peut se faire par l'assistance, on verra ça un peu plus tard. Aider quelqu'un, ça fait partie de la communion fraternelle. Évidemment, la chose par excellence, c'est l'amour, parce que sans amour, on ne peut pas avoir une communion fraternelle. Alors la Bible nous dit qu'on a une communion fraternelle parce qu'on a des choses en commun. Ah, qu'est-ce qu'on a en commun? D'abord, on est en communion avec Christ et le Père. Est-ce que ça marche? Il écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. En tant que chrétien, je fais partie d'une famille, et elle s'appelle la famille de Dieu. Nous sommes tous de cette même famille, et parce que nous sommes de cette famille, comme dans une famille normale, normalement ça doit créer des liens. Et j'ai même envie de dire des liens forts. C'est bien parce qu'on a de la famille qui vient des États-Unis aujourd'hui, c'est formidable, hein? Mais c'est notre famille à nous, hein? La famille de Dieu, et ça crée des liens. Et surtout, ces liens sont créés parce que quand on s'arrête, qu'on se regarde tous dans le miroir, on n'est pas bien fiers de ce qu'on était autrefois, parce qu'on est tous graciés, nous sommes des pécheurs graciés, un peu sortis de prison, j'ai envie de dire, et qui ont tous été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on est tous sur le même, hein, sur le même pied d'égalité, mais dans la même famille. Et ça, c'est formidable. Deuxième chose, c'est, Jean nous dit, « Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Et c'est le verset suivant, à mon avis, voilà. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Deuxième chose qui fait qu'on doit être en communion, c'est le Saint-Esprit, qui unit en fait l'Église. À partir du moment qu'on est de nouveau, on est scellé, nous dit Éphésiens du Saint-Esprit et on devient le temple du Saint-Esprit. Et nous vivons dans ce temple, chacun en tant que temple du Saint-Esprit, mais aussi en tant que chrétien dans le temple de Dieu. Et cette communication, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne, dans le sens où il veut produire en nous le fruit de l'Esprit, pas les, le fruit de l'Esprit. Vous connaissez l'amour, la patience, la maîtrise de soi, etc. Et si on laisse faire le Seigneur, ben, le Seigneur va nous transformer au fur et à mesure. Mais c'est ce fruit de l'Esprit, je pense, si on le laisse faire dans notre vie, qui va aussi permettre la communion fraternelle. Parce que comment on peut avoir une communion fraternelle si on ne s'aime pas? Ce n'est pas possible. Ou si on ne se maîtrise pas, ou si on n'est pas en paix, etc., etc. Et ce Saint-Esprit va nous aider justement à vivre cette communion fraternelle. Mais ça se travaille. Parce que souvent, on aimerait bien que les autres fassent des efforts. Souvent, on est comme ça, hein, je suis le premier. Mais souvent, ça commence par moi. C'est moi qui dois faire des efforts. C'est moi qui dois me laisser transformer par le Seigneur. C'est moi qui ai besoin de ce Saint-Esprit qui me régénère encore un peu plus, hein, qui me sanctifie pour que je puisse être plus disponible vis-à-vis des autres. Ce n'est pas à l'autre d'abord de changer. Notre participation à la foi, autre chose, je lui demande que ta participation, alors là c'est Paul qui parle à Philémon, hein, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. Si nous croyons en Dieu, vous croyez en Dieu ?
Oui.
Vous croyez à son sacrifice ?
Oui.
Vous croyez à Jésus-Christ ?
Oui.
Alors, ça nous unit. Parce que peut-être on n'est pas toujours d'accord sur beaucoup d'autres points, mais là-dessus, je pense qu'on est d'accord, au moins. Donc il y a quelque chose qui cimente cette unité, malgré nos différences. Et heureusement d'ailleurs. Hein. Mais on participe à cette foi, et cette foi, comme il dit Paul à Philémon, elle doit être efficace. Hein. Vous savez, Onésime, c'était un esclave qui s'était enfui, et ben, Paul lui demande de revenir, et à Philémon de l'accueillir, mais avec beaucoup d'amour. Parce que normalement, c'était la peine de mort, parce qu'il avait fui. Mais il demande de l'accueillir. Mais pareil, c'est en faisant ce geste d'amour vis-à-vis de son esclave qu'il va participer à la foi, il va démontrer sa foi, tout simplement. Et cette foi devient tout simplement une communion fraternelle. Et Philémon, on pense, je ne sais pas parce qu'il ne le dit pas dans le texte, mais va certainement pardonner à son esclave et cette communion fraternelle va être rétablie. Et puis il y a la communion dans les souffrances de Christ, hein, dans Philippiens 3:10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Nous voulons être des modèles, ou plutôt nous voulons suivre le modèle, Jésus-Christ, hein, vivre comme Jésus-Christ. Alors, c'est vrai que je mets peut-être la barre un peu haute, enfin, à moins qu'il y en ait un qui arrive, je le souhaite, mais on veut quand même y tendre, lui ressembler davantage, dans ses souffrances aussi, parce que parfois ça passera par la souffrance, hélas, et surtout, je pense, dans l'obéissance, on veut vraiment faire comme lui a obéi au Père. Et en devenant conforme à lui dans sa mort, on l'a fait par notre conversion, par le baptême, ça a été symbolisé aussi, mais peut-être aussi par la mort de notre péché, parce qu'on sait comment on est, mais on veut apprendre à être de mieux en mieux, comme lui. Bon, parfait, on ne le sera jamais, ça je vous rassure, mais on peut y tendre en tout cas. Et quand le péché, quand notre ego s'évanouit, la communion fraternelle peut tout simplement se réaliser, voire même s'émanciper. Et c'est formidable. Il faut donc persévérer dans cette communion. On l'a lu tout à l'heure dans Actes 2, 42. Persévérer, c'est faire des efforts. Vous n'avez jamais fait du footing. Commencez 2-3 pas. Oh, j'ai fait mon footing aujourd'hui, mais bon, ça, c'est pas du footing. Hein. Il faut persévérer pour faire 1 km. Et puis, quand vous dites qu'il faut faire 2 km, là, on commence à suer un petit peu. Mais il faut continuer à persévérer. Et puis, ça commence à faire mal. Et puis, il y a le cœur qui commence à s'emballer. Et là, c'est pareil. Quand je dois persévérer dans la communion fraternelle, mon cœur va battre de temps en temps parce que bah, on est des êtres humains, mais on a besoin de faire un effort. Et c'est le Seigneur qui nous le demande. Il y a d'autres domaines hein, où on nous demande de faire des efforts, mais persévérer, ça veut dire persévérer, être assidu, continuer, et surtout malgré la difficulté. Alors c'est difficile parce qu'on se connaît, nous sommes pécheurs, hein, on est comme cela, et parfois notre ego est là, et ben, on manque d'humilité. Et c'est bien de le reconnaître d'abord avant de vouloir persévérer. Mais une fois qu'on l'a reconnu, on peut laisser le Saint-Esprit justement travailler dans notre cœur et nous faire avancer dans ce domaine-là. C'est difficile parce qu'on est tous différents. D'abord parce qu'on a des sensibilités différentes, un homme, une femme peut-être. Peut-être parce qu'on vient d'une éducation qui est différente aussi, hein, selon des fois les pays. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est complètement différent. Voilà, forcément, ça fait des différences. On a nos habitudes de vie, on a notre culture, enfin... On n'est pas tous pareils. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on s'ennuierait. Hein, si on ressemblerait tous, on s'ennuierait vraiment, profondément. c'est toute la richesse, mais aussi des fois la difficulté. Mais ce n'est pas impossible, puisque le Seigneur nous demande d'avoir cette communion fraternelle. Elle est possible si on fait l'effort de persévérer, si on fait l'effort d'apprendre à être humble, et si on fait l'effort de l'amour, comme Dieu le fait pour nous. Et là, ça commence à devenir possible, ça va même se réaliser, ça ne sera pas parfait, mais ça va être formidable. Et quand une église a une communion fraternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très rare. Parce que ça, on ne le trouvera jamais dans le monde. Et le Seigneur veut notre communion fraternelle, justement, parce que non seulement il le veut pour nous, mais c'est un témoignage pour le monde. Vous savez, quand vous êtes dans le monde, qu'est-ce que vous faites? Le monde se tape dessus, se critique, se ment, se fait que du mal, et quand il arrive dans un endroit où les gens s'aiment, ça fait un choc pour eux. Et c'est frontal même des fois, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui arrivent à se pardonner, à s'aimer, etc. Et ça, c'est un témoignage justement pour le monde. Ça peut même pousser les gens à la conversion. Et notre communion fraternelle, justement, doit être vue du monde. Et qu'est-ce que notre Église montre? Si le monde venait peut-être dans cette Église, qu'est-ce qu'on lui apporte? La communion fraternelle prouve aussi que Jésus change les cœurs. C'est ça qui est formidable. On montre, peut-être à ceux qui veulent bien le voir, que, regardez, peut-être des fois on ne s'entend pas, mais regardez comment le Seigneur a transformé nos cœurs. Et maintenant, on a une communion fraternelle. Dieu fait ces choses-là. La question de savoir, c'est... est-ce que c'est une réalité dans notre vie? Est-ce qu'on met ces choses en pratique? Mais je crois que c'est un fort, fort témoignage pour le monde. Toutes ces choses, nous les avons en commun, normalement, et ça devrait nous pousser, en tant que frères et sœurs, à cette communion fraternelle comme le Seigneur nous le demande. Deuxième chose que la Bible nous apprend, c'est que nous avons des ennemis dans cette communion fraternelle, hélas. Le premier texte qu'on trouve avec le mot, hein, j'ai cherché les mots par rapport au texte, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alors évidemment, ce n'est pas pour nous, parce que je ne pense pas que vous soyez en communion avec les démons. Alors venez me voir tout à l'heure, parce qu'il y a un problème. Hein. Mais il y a quand même quelques idées derrière. Parce que souvent, il y a des idoles qui sont liées à ce qu'il est en train de dire là. Et nous-mêmes, nous avons peut-être parfois des idoles. Aujourd'hui, on ne se protège pas devant quelque chose, mais l'idole, c'est quelque chose qui remplace tout simplement Dieu dans ma vie. Et là, il y a moult de choses qui peuvent remplacer Dieu dans ma vie. Et souvent, un manque de consécration aussi peut être une forme d'idolâtrie, parce que quelque chose me prend mon temps pour le Seigneur, tout simplement. Ou parce que je veux vivre ou imiter le monde. Parce que je marche sur deux chemins en même temps. Mais là encore, le Seigneur, je ne pense pas qu'il soit honoré par une vie comme cela. Mais le diable, lui, est content quand on vit de cette manière-là. Donc on n'est pas en communion avec les démons directement, mais des fois on ne fait pas vraiment plaisir au Seigneur non plus. Dans Jean, et on l'a lu tout à l'heure, hein, là, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si on prétend cela, et que nous marchons dans les ténèbres, bah, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Hein. Si Jean utilise là le mot ténèbres dans le sens de parler du péché en général. Si je dis que je suis en communion avec Dieu et que je pêche délibérément, il nous arrive de chuter parce qu'on est des êtres humains, mais quand on le fait délibérément, il y a un problème. Comment je peux dire que je suis en communion avec Dieu alors qu'en même temps je suis en train de faire l'inverse de ce qu'il me demande? Dès que je ne suis pas dans la lumière, j'ai envie de dire, ben, automatiquement je vais m'égarer, automatiquement ben, je vais me perdre dans mon péché, forcément. C'est bien de rester dans la lumière. Et le problème, c'est que si je suis dans le péché, forcément, ça va nuire à la communion fraternelle. Si je n'aime personne, si j'ai envie de faire comme j'ai envie, ça ne va pas vraiment aider pour nous entendre, évidemment. Mais il faut en être conscient, peut-être, et se poser de temps en temps la question, si ça ne marche pas, peut-être, dans cette communion fraternelle, pourquoi je n'aime pas mes frères et sœurs, etc. Peut-être, quelque part, je suis dans les ténèbres, ou pas loin. Et à moi de me remettre en question, et peut-être me replacer sous la lumière du Seigneur. On peut aussi se mettre, avoir comme ennemi en disant « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun ?» Et là, le mot commun, c'est la koinonia, donc la communion entre la lumière et les ténèbres. Hein. Cette communion avec les infidèles, est-ce que c'est possible qu'un chrétien l'ait? Non, je ne pense pas. Parce que bien souvent, quand je veux vivre dans le monde, au fur et à mesure, je vais devenir aussi esclave de leur péché. Et je vais me laisser facilement entraîner. Et vous savez, le monde est fort là, dans ce domaine-là pour nous entraîner et nous égarer loin du Seigneur. Peut-être parfois, on ne trouve pas cette communion fraternelle dans l'Église. Et donc forcément, si on ne la trouve pas ici, on va la chercher ailleurs, ce qui est normal. Bon, moi, ça me pose un problème. Si on la trouve pas ici, c'est bien dommage, quelque part. Hein. Mais il faudrait peut-être pas aller la chercher forcément dans le monde. Ou alors peut-être qu'on va la chercher dans le monde parce que l'Église fait comme le monde. Mais normalement, si l'Église vit vraiment une communion fraternelle, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Elle est là. Et c'est ce que veut le Seigneur, justement. Parce que la chercher dans le monde, vous allez être vite déçus. Quand vous ferez une bêtise, on ne vous pardonnera pas. Par contre, on se vengera peut-être même sur vous. Ce que normalement l'Église ne fait pas. On vous haïra dans le monde, mais l'Église ne vous hait pas les uns les autres normalement. Et donc une communion dans le monde n'est pas absolument possible. Enfin, en tout cas pas comme celle que le Seigneur nous demande. Notre verset qui parle de cette communion fraternelle, hein, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Parfois, il y a des chrétiens qui simulent la vie chrétienne. Il y a les religieux, mais il y a ceux qui sont un peu plus fins, j'ai envie de dire. On joue les spirituels, peut-être le dimanche, avec un grand sourire. Et finalement, au fond de notre cœur, on est peut-être tout simplement religieux. Ça, je ne sais pas pour vous, je ne peux pas le dire, mais il y en a qui sont comme cela. Peut-être on voit des beaux actes le dimanche, et dans le cœur, il y a de la rancune, il y a de l'amertume, il y a des choses sombres peut-être. Mais on essaie de jouer quand même les spirituels. Mais Jean dit qu'il marche quelque part dans les ténèbres et il se ment à eux-mêmes, peut-être qu'il ment même aux autres. Et finalement, il ne pratique pas la vérité. Et c'est triste d'être comme cela. Ce serait malheureux de vivre de cette manière-là. Mais si je suis comme ça, comment je peux bâtir la communion fraternelle avec les autres? Ce n'est pas possible. Il faut que je règle mes problèmes, que je me mette sous la bonne lumière du Christ. Hein, moi, j'aime bien me dire, quand je me dis que je me mets à la lumière du Christ, c'est un peu comme le soleil en ce moment, ça réchauffe, ça fait du bien, hein, la lumière, surtout de Christ, et le laisser travailler dans mon cœur, le soigner tout simplement pour que je puisse profiter pleinement de ce qu'il veut pour moi dans cette communion fraternelle. Il veut qu'on marche dans la lumière. Mais marcher dans la lumière, vous savez, j'aime bien des fois l'été, parce que pendant l'hiver, vous regardez vos vitres, elles paraissent toutes propres comme ça, parce que quand il fait gris dehors, vous ne voyez pas les... Et dès qu'il y a la lumière, les familles, moi aussi je fais les vitres un temps à temps, et bien d'un coup vous voyez qu'elles sont complètement sales en fait, et on ne le voit pas généralement. Et j'ai vu ça récemment, c'est pour ça que j'ai les lavé ici. Mais, bon. Mais c'est pareil, on peut ne pas voir des fois nos problèmes tant qu'on ne veut pas se mettre sous la lumière de Christ. Mais dès qu'on se met sous la lumière, alors là, les choses changent. Parce que le Seigneur ne veut pas que je m'intéresse à l'autre, il veut que je m'intéresse à mon péché. Il veut que je m'intéresse à mes faiblesses. Il veut que je m'intéresse à mon ego, à mon besoin de me soigner et de changer, pas aux autres. Et si chacun le faisait, ben ça marche tout simplement. Ça sera une belle communion fraternelle. Alors il y a du travail pour chacun, on est loin d'être parfait, je le sais. Mais si je m'intéresse qu'à moi d'abord et que je laisse la lumière entrer dans ma vie, alors beaucoup de choses vont changer. C'est ce qu'on appelle vivre tout simplement dans la vérité avec Jésus-Christ, plutôt que faire semblant, la vérité avec nous-mêmes, plutôt que toujours nous excuser, et on va être vrai aussi avec les autres parce qu'on ne sera pas hypocrite ou on ne sera pas plein d'amertume avec l'autre. Au contraire, si j'ai un différend peut-être avec quelqu'un, ça peut nous arriver, ben, ne laissons pas l'amertume. Il y a d'autres passages qui le disent, grandir au contraire, allons chercher la réconciliation, parlons les uns avec les autres si ce n'est pas possible, faisons-nous aider. Mais l'idée, c'est de ne pas rester dans cet état. Si toute l'Église est brouillée et que le Seigneur nous demande d'avoir une communion fraternelle, qu'est-ce qu'on va faire là? Ça ne va pas être possible. C'est un peu l'église des Corinthiens que Paul va reprendre, parce que cette église était dans un état lamentable, mais il ne pouvait pas vivre cette communion fraternelle. Il va les reprendre et chacun a été remis un petit peu en place. Hein. Mais là, le Seigneur est évidemment déshonoré. Vous savez, il y en a un qui n'aime pas la communion fraternelle, c'est le diable. Il fera tout pour briser. Mais si nous avons cette communion fraternelle, si nous faisons l'effort, elle va devenir une arme, quelque part aussi. Un témoignage aussi pour le monde, mais une arme vis-à-vis du diable, d'une certaine manière, parce que là où il veut nous faire du mal, et s'il nous voit nous pardonner, nous réconcilier, alors là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse après? Il n'y a plus rien à faire. Et ça, c'est formidable, parce que là, ça devient vraiment une arme, et l'Église peut devenir vraiment solide. Troisième chose qu'on trouve dans la Bible par rapport à ce mot koinonia, communion fraternelle, c'est de vivre cette communion fraternelle, mais en pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour vivre cette communion fraternelle? Le mot koinonia en lui-même, ça veut dire un peu se préoccuper du prochain. J'ai une vraie communion fraternelle quand je m'intéresse à l'autre, quand j'essaie de connaître qui il est Et puis ensuite, peut-être ses besoins. Alors, il ne s'agit pas de connaître son numéro de carte bleue, on est bien d'accord. Il y a des limites à connaître l'autre. Mais est-ce que ça m'intéresse déjà? Ça, c'est la question que je peux me poser aujourd'hui. Est-ce que, oui, peut-être j'ai des affinités dans l'Église, je m'intéresse à leur vie, mais l'autre, on fiche. Bah ouais, des fois, on est comme cela. Mais non, la communion fraternelle, c'est de s'intéresser à tout le monde. Et surtout, peut-être, à celui avec lequel je n'ai pas d'affinité. Il ne s'agit pas de devenir copain-copain, mais au moins de savoir qu'est-ce qu'il a besoin, peut-être. Hein. Apprendre à aller vers l'autre, se connaître, ne pas s'ignorer. Ça, c'est la communion fraternelle. En pratique, alors le mot est en relation avec plusieurs choses. D'abord, dans Romains 15, 26, il dit « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution, c'est-à-dire une koinonia, en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. » La communion fraternelle, c'est aider le pauvre. Alors, ce n'est pas forcément le pauvre-pauvre, ce n'est pas forcément qu'avec de l'argent, c'est l'aider, l'assister, l'encourager peut-être, prier pour lui. Mais il y a une façon d'aider celui qui est dans la difficulté. On parlait des pauvres de Jérusalem, hein, qui étaient, je crois qu'il y avait une famine à ce moment-là. Et donc, ils ont pris sur eux, et cette communion fraternelle ne s'est pas seulement exercée dans l'Église, mais elle s'est exercée vers une autre Église. De Corinthiens 9, 13, « En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers vous. » Là encore, cette communion fraternelle parle d'aider, ou plutôt cette fois, c'est avoir de la libéralité, être capable d'aider, d'assister l'autre, et là, cette fois, on parle vraiment de l'aspect financier. Alors, il ne s'agit pas de se ruiner pour les autres. Si quelqu'un est dans le besoin, j'aime quand même évaluer aussi la situation, on ne donne pas l'argent comme ça non plus, hein, mais, ou alors peut-être qu'il y a une église qui est dans la difficulté, et bien, cette communion fraternelle, c'est d'aider financièrement, parfois, ponctuellement. On le fait avec nos missionnaires, d'une certaine manière. C'est une communion fraternelle avec eux. C'est quand même formidable de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aide quelqu'un qui est en Bulgarie, par exemple. On l'aide, et ça, c'est notre communion fraternelle avec lui. Donc, c'est aider financièrement. Et puis, 2 Corinthiens 8, 4 dit « Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Il y a cette idée de s'arrêter, de réfléchir peut-être aux besoins des saints, et ça veut dire tous les chrétiens, tout simplement, comment des fois on peut assister, peut-être dans notre église, si on peut aider, alors aussi peut-être dans les ministères, ou s'il faut secourir quelqu'un, ou un pasteur, ou un missionnaire dans la difficulté, c'est prendre part, c'est aussi la communion fraternelle que le Seigneur veut que l'on ait dans l'église. Cette communion fraternelle, c'est donc de participer à l'œuvre de Dieu, c'est pas simplement avoir des relations entre nous, c'est aussi avoir l'idée de se projeter un peu plus loin et de considérer le royaume de Dieu et son avancement et d'avoir part, d'avoir cette communion fraternelle dans ce travail qui se fait au fur et à mesure. Et il y a mille manières de le faire. La communion fraternelle se fait aussi par la bienfaisance et la libéralité, nous dit Hébreux 13, 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, encore une fois le mot koinonia, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, hein, bienfaisance plus libéralité, on pourrait dire simplement que ce sont les bonnes œuvres que l'on fait pour peut-être faire vivre cette communion fraternelle. Mais ce qu'il rajoute là, et c'est intéressant, il dit que c'est un sacrifice. Hein, bienfaisance et libéralité, car c'est de tels sacrifices. Dieu sait que ce n'est pas évident toujours de vivre de cette manière-là, mais il se plaît, il a même plaisir à nous voir agir de cette manière-là. Et surtout quand il sait qu'on est prêt à s'offrir comme une victime, parce que ça, le mot peut dire, eh ben, c'est faire don de soi, être capable de te briser des fois, s'il le faut, eh ben, Dieu prend plaisir à cela. Mais c'est comme ça aussi que va se construire la koinonia, la communion fraternelle. Une fois que Dieu peut balayer tout ce qui est dans notre cœur et qui nous empêche peut-être d'avancer, de l'ignorer peut-être, ça Dieu ne le veut pas. Mais par contre, si on lui dit « change mon cœur », comme on le chante des fois, alors à ce moment-là, le Seigneur va travailler dans notre cœur et cette communion fraternelle va devenir possible et Dieu, il est content quand c'est possible, quand c'est fait. Et il dit en plus, hein, n'oubliez pas, parce qu'il sait que on oublie ou qu'on oublie de faire des fois les efforts, mais Dieu ne néglige pas, Dieu nous voit, Dieu sait comment on agit dans cette communion fraternelle et lui, il voudrait simplement qu'on change ou qu'on s'améliore, même, tout simplement. Alors comment on pourrait mettre en place cette communion fraternelle dans l'Église? En pratique, on pourrait dire, on l'a dit, d'abord apprendre à se connaître les uns les autres, alors bannir les freins, parce que ça c'est à l'autre, c'est pas évident. Surtout quand il vient pour la première fois, c'est pas évident d'aller voir quelqu'un qu'on connaît pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment il va regarder? Parler du beau temps. Il fait beau aujourd'hui. Ça commence. Et puis, posez-lui la question comment il s'appelle. Mais c'est à moi un moment aussi de bannir ces freins qui sont là. Et il ne va pas vous manger. Hein. De toute façon, s'il veut vous faire du mal, il vous demandera de sortir, tout simplement. Mais on se freine bien souvent à l'intérieur par timidité. Je sais qu'il y en a qui sont timides, d'autres pas. Mais... Ou peut-être parce qu'on se sent meilleur. Ou moins bon. Parce qu'on se dit, moi, je ne suis pas assez capable d'aller vers les autres, donc je ne vais pas y aller. Il y a tous les cas possibles. À moi de savoir où j'en suis, peut-être. Et qu'est-ce qui m'empêche, peut-être, des fois, d'aller vers l'autre et apprendre à le connaître. Aujourd'hui, on a aussi des moyens de communication. Alors peut-être que vous n'osez pas parler à la personne, mais les SMS, bonjour, je vous ai vu aujourd'hui, comment vous appelez? Enfin, je ne sais pas s'il faudrait le faire comme cela. Je préfère quand même parler avec quelqu'un, mais après, si on veut un peu dialoguer, qu'on est un peu timide, il y a d'autres manières de communiquer. Mais bon, je ne vais pas vous dire de rester sur Facebook toute votre vie non plus. Hein. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Mais ça élargit la possibilité peut-être de vaincre nos timidités ou nos peurs. Mais le meilleur moyen de communication, évidemment, c'est d'aller vers la personne et de lui montrer votre amour. Et ça, évidemment, quand vous le faites et que quelqu'un est nouveau dans l'Église, ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Apprendre à s'inviter les uns les autres pour un repas, et si vous n'êtes pas assez courageux, pour un café, ou un thé, une tisane, enfin, je ne sais pas, une glace, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est simplement de pouvoir partager une occasion d'être ensemble. Vous savez, avec Sylvie, on a pris le temps d'apprendre à inviter dès qu'on était jeune. Et dès que quelqu'un était nouveau dans l'Église, on l'invitait systématiquement. On a eu des aventures, c'était formidable. Mais c'était génial parce que dans notre jeune foi, on a partagé la foi des pasteurs qui sont passés, des gens qui avaient une certaine maturité, et ça nous a énormément aidés. Et moi, j'aime beaucoup entendre le parcours des autres, comment vous êtes arrivé au Seigneur, c'est formidable. C'est dans ces occasions-là qu'on peut le faire. Ce n'est pas sur le pied de la porte à l'Église que vous allez me raconter votre conversion. C'est impossible. Ah, ce n'est pas toujours évident d'inviter quelqu'un que je ne connais pas, je le reconnais, et vous n'allez pas mourir. Ça, c'est sûr. Et au pire, si ça se passe mal, demandez gentiment à la personne de sortir. Mais bon. Mais s'inviter. Je me souviens qu'il y avait un pasteur à l'Institut qui disait... Vous n'allez pas préparer le caviar. Hein, parce que des fois, on a peur d'inviter parce que oh, je ne sais pas cuisiner, etc. Il disait un bon plat de pâtes, mettez des raviolis s'il faut, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important le repas. Après, si vous faites un bon repas, j'accepte aussi. Hein, mais bon. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est d'être ensemble. Le caviar, on s'en fiche. Le fait de partager peut-être quelques heures ensemble, d'apprendre à se connaître. Et vous savez, quand vous reverrez après dans l'église, ça crée un lien, forcément. Forcément. Et après, ben, si vous réinvitez, etc., ça va être formidable. Une autre chose qu'on peut faire dans cette communion fraternelle, c'est de prier les uns pour les autres. Pas prier pour celui avec qui j'ai des affinités. Prier avec celui que je ne connais pas. Et si je veux prier pour lui, il faut d'abord que je connaisse son nom. On ne va pas toujours dire au Seigneur, ah oui, mais tu connais tel qui s'assoit au fond à gauche dans l'église. Peut-être Dieu va vous dire un jour, il va lui dire bonjour, pose-lui la question comment il s'appelle, et après... Tu pourras peut-être prier pour lui. Prier pour ceux que j'aime pas. Ah, ça c'est déjà plus difficile. Mais le Seigneur intercède tous les jours pour moi. Et des fois, je ne suis pas vraiment terrible, terrible. Et oui, et peut-être qu'en priant pour celui que j'aime pas, ben, peut-être le Seigneur va commencer à me faire l'aimer aussi. C'est un bon exercice. Hein. Prier pour le courage d'aller vers l'autre. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force de sagesse, me dit Paul, que l'on a. Et moi, j'étais un gros timide avant. Hein. Vous ne vous rendez pas compte comme ça. Il n'y avait pas plus timide que moi. Mais le Seigneur a transformé ma vie. Non, bon, ça veut pas dire, je ne suis pas des fois timide encore, mais quand même, entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, Dieu a fait un sacré boulot dans ma vie et veut le faire avec chacun d'entre nous. Peut-être je ne peux pas aller vers l'autre parce que... Ou je dois prier, ou avoir le courage, pardon, de prier pour l'autre par rapport à mon manque de pardon. Peut-être si j'ai un problème, un différend avec quelqu'un, prier pour cela. Et le Seigneur vous aidera à résoudre aussi ce problème. Prier pour l'autre, ça démontre tout simplement l'intérêt que j'ai pour les autres. Quand je ne prie pas pour eux, c'est que je m'en fiche. Et c'est triste quand on soit comme ça dans l'église, on s'en fiche. Alors, on ne connaît pas tous les noms, mais on peut faire l'effort de les connaître. Et si vous voulez une liste de noms, vous venez me voir, moi je vous donne toute ma liste. C'est tous les noms de l'église. Donc si vous voulez faire l'effort de prier pour les uns et les autres, et c'est formidable parce qu'on apprend les noms aussi. C'est mon moyen mnémotechnique d'apprendre à prier pour les autres, pour apprendre à me souvenir aussi de leurs prénoms. Si je vous posais la question, regardez votre voisin, faites-le discrètement. Hein. Est-ce que vous avez prié pour lui déjà? Je ne veux pas savoir, mais posez-vous la question. Ça serait bien que vous le fassiez, que chacun prie l'un pour l'autre. Et prions aussi pour que l'amour de Dieu grandisse en nous, hein, pour que le chrétien, parce qu'il est plein de l'amour de Dieu, ait vraiment envie d'aller vers les autres, apprendre à connaître les frères et les sœurs en Christ. Vous savez, comme je dis souvent, on va partager l'éternité ensemble. Ça va être long. Alors autant apprendre à se connaître aujourd'hui, non? Comme ça, bon, après on sera parfait, je sais, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus rien, mais apprenons déjà à nous connaître aujourd'hui, et puis on se connaîtra encore mieux dans le ciel. Puissions-nous, à travers cette étude de ce mot, hein, de communion fraternelle, briser peut-être nos cœurs, parce qu'ils ont besoin des fois, changer nos défauts, pas parce que le Seigneur nous le demande, mais parce qu'on a envie de vivre aussi pleinement le plan de Dieu. Se refuser la communion fraternelle, c'est refuser quelque chose de formidable que Dieu m'a donné et veut me faire vivre. Et ça, c'est bien dommage. Et je crois que beaucoup d'églises se privent de cela, parce qu'on vient à l'église, on part directement, on n'apprend pas à s'inviter, on n'apprend pas à se connaître. Et ça, c'est bien triste. Dieu a un super plan au travers de la communion fraternelle, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. À nous, évidemment, de nous remettre en question et peut-être de nous laisser changer dans ce domaine. Pour terminer, la communion fraternelle d'une église démontre aussi la qualité de l'amour qu'elle a les uns vis-à-vis des autres. Si quelqu'un rentre dans l'église et que tout le monde se crêpe le chignon, on sait que cette église ne s'aime pas les uns les autres. Et c'est bien dommage de donner un tel témoignage. La communion fraternelle, c'est un repère, quelque part, en tout cas pour moi en tant que pasteur, un repère de savoir où on est dans notre église. Christ a donné sa vie pour former une vraie famille. Vous êtes ma famille. Pas simplement le mot famille, vous êtes vraiment ma famille. Et j'espère que je fais partie aussi de votre famille. Et comme on fait partie de cette famille, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres, comme une vraie famille. Et comme toute famille, il y aura des joies, il y aura des difficultés. Mais une famille, normalement, reste soudée, quoi qu'il arrive. Et ça, ça demande l'effort qu'on a vu tout à l'heure, mais il faut que je l'ai dans ma tête, je veux malgré tout. Et quoi que ça me coûtera, je veux qu'on reste soudés. Enfin, c'est ce que veut aussi le Seigneur pour nous. Si j'ai de la rancune, si j'ai des animosités, si j'ai un ego qui est un peu trop fort, tout ça, ça honore le diable. Dieu n'est pas honoré là-dedans. Alors, tout ce que je veux dire à vous et à moi-même, hein, parce que moi aussi j'ai à apprendre, battons-nous avec notre propre cœur. Hein. Cet après-midi, donnez-lui quelques petits coups, là. Laissons le Seigneur rentrer dans ce cœur pour qu'il puisse le changer, tout simplement, pour qu'on n'honore plus le diable, mais qu'on honore tout simplement Jésus-Christ, parce que lui le mérite absolument. Et parce que lui veut tout simplement une vraie communion fraternelle. Et quand l'Église vivra cette communion fraternelle, alors on sera une très belle Église. Que Seigneur nous aide dans ce domaine. On va prier. Seigneur, merci pour la bonne idée qu'est l'Église de nous réunir, tous ceux qui ont été graciés, pour former une famille, pour former cette Église, Seigneur, que tu aimes, que tu chéris tant, pour laquelle tu as donné ta vie, Seigneur. Et peut-être que nous-mêmes, avec nos caractères, nos manquements, nos animosités, nos bêtises, Seigneur, nous cassons peut-être ce beau projet que tu as pour l'Église. Pardon, Seigneur, si nous sommes comme cela, et apprends-nous à changer d'attitude, apprends-nous à aimer l'Église comme toi tu l'as aimée, et ça veut dire aimer le prochain, comme toi tu nous aimes chacun. Apprends-nous à briser peut-être ces barrières de timidité qui nous empêchent d'aller vers l'autre. Apprends-nous à aimer la différence aussi, Seigneur. Apprends-nous à nous inviter, à avoir le courage de le faire pour apprendre à mieux se connaître, à partager aussi notre foi. Et souvent, c'est un vrai délice de le faire. En tout cas, Seigneur, je prie pour notre Église, en tout cas, que cette communion fraternelle puisse grandir et qu'elle puisse devenir un fort témoignage par rapport au monde. Par rapport à nos collègues de travail peut-être, par rapport à celui qui rentre dans l'Église. Et par là, je crois que nous serons des chrétiens qui t'honorent tout simplement. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous parce que nous en avons vraiment besoin. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen.